Chapitre 11. 1956.
Jean ! Jean ! Dépêche-toi, on va se faire rouspéter !
Il court vers elle, des rires en cascade dans la gorge. Une pluie d'étoiles lancée vers le ciel bas, sombre. Engoncé dans un manteau qui a appartenu à Colette, il se dandine vers elle. Un petit pardessus vert qui peut bien faire l'affaire, qu'on soit une fille ou un garçon. Jean porte une cagoule rouge qui lui serre la gorge.
« Ça gratte !»
répète-t-il à sa sœur sur le chemin qui mène à la ferme. Sa petite main dans la sienne, pas beaucoup plus grande. Les mains de Colette, aux ongles noirs. Elle a beau les frotter au savon et à la brosse, à force, la terre imprègne la peau. À l'école, on murmure « Pecno » sur son passage. Mais on ne le souffle pas trop fort, parce que Blaise de Sénéchal, le fils du châtelain qui possède les terres exploitées par les parents de Colette, fait trois têtes de plus que les autres. Blaise, c'est l'ange gardien qui se tient très souvent derrière elle. Colette a 10 ans, Jean 6. Elle aime cet enfant aux yeux verts printemps, fruit de l'union de leurs parents, Robin et Georgette. Une union qu'elle juge laborieuse. Deux faciès disgracieux. Colette ne comprend pas par quel miracle son petit frère est si beau. Un ange échoué dans une famille qui ne serait pas la sienne. Colette n'a qu'une crainte, que Georgette, leur mère, soit à nouveau enceinte. Elle surveille son ventre comme le lait sur le feu. Déjà qu'elle est souvent absente à l'école sous prétexte qu'il faut aider à la ferme, avec un troisième lardon, il finirait par la retirer définitivement. Une fille de ferme, une bête de somme. Voilà tout ce que je suis. Sa source de joie, c'est son frère. Et serrer les agneaux dans ses bras, jusqu'à ce qu'ils s'assoupissent contre elle. Le faire en cachette, parce qu'il y a toujours du travail. Toujours. Ses mains, c'est du renfort, de la main-d'œuvre gratuite. Ses mains sont celles de l'aîné. Jamais il ne la frappe, ni le père ni la mère. Mais jamais il ne l'embrasse, ni le père ni la mère. Il paraît que ses parents se sont rencontrés au bal du 14 juillet, à Guignon. Lorsque Colette pose des questions pour comprendre, « Mais il y avait quoi comme musique? Vous avez dansé ensemble? Comment il a fait Robin pour te parler? Il t'a dit quoi ?» La mère hausse les épaules en rougissant et répond, « T'as pas autre chose à faire? C'est pas avec tes questions que les bêtes et que nous tous on va manger. » Les foins en été, les sacs de patates à descendre la cave avant l'hiver, aider le père à pousser la charrue tirée par le cheval, bijoux, ça fait un mal de chien dans le dos. Les haricots à mettre en bocaux, les salades à arroser, biner, planter, désherber, retourner, rentrer et sortir les bêtes, une cinquantaine de moutons et brebis, aider à la traite, et tout ça avant et après l'école. Le soir, comme la mère est fatiguée, il faut coucher le ch'ti. Alors c'est Colette qui accompagne Jean jusqu'à son lit, le veille jusqu'à ce qu'il s'endorme.
« Dors, mon petit frère. Ferme les yeux. Tu me racontes une histoire? Je viens de te raconter la belle au bois dormant. Encore une histoire. »
Colette respire l'odeur de son cou. Elle le sent rire.
Jean, s'il te plaît, dors. Il faut encore que je travaille. T'as du travail, Coco? Oui, Coco doit aider. Une petite histoire.
Une dernière. Et après, tu promets? Tu fermes les yeux?
Je promets. Le piano? Encore? Oui.
Colette va chercher son cahier de mathématiques dans son cartable. Sur les deux dernières pages, Blaise a écrit une histoire au crayon à papier pour Jean. Une histoire courte qu'il chérit particulièrement. Il était une fois un minuscule piano qui vivait dans la poche d'un petit garçon qui s'appelait Jean. Chaque soir, l'enfant sortait l'instrument, l'approchait de son oreille et l'écoutait improviser la plus merveilleuse des musiques. Jean fermait les yeux et s'endormait. La musique l'accompagnait dans ses rêves. Le piano grandissait et prenait tout l'espace au fur et à mesure que la nuit avançait. De somptueuses sonates bercèrent les nuits de son enfance. Mais un matin, il ne trouva plus son piano. Il fouilla dans toutes ses poches, il l'avait perdu. Il poussa la porte du salon et découvrit son instrument. Il avait grandi comme dans ses rêves et trônait au milieu de la pièce, noir et brillant comme un pur sang. Le piano retrouvé. Mais, contrairement à l'autre, il ne jouait pas tout seul. Il fallait trouver la musique sur le clavier. Jean souleva le couvercle et commença à jouer au hasard. Rien ne se produisit. Il n'eut droit qu'à des sons sans harmonie. Le hasard dans les doigts ne parvenait pas à le guider. Les sonates étaient mortes. Mais à force de chercher, de travailler, d'écouter ce que le piano avait à lui dire, il finit par retrouver des mélodies, ses mélodies. Et Jean devint un grand pianiste, encore plus grand que son piano. Les deux ne se quittèrent jamais et voyagèrent ensemble dans tous les pays du monde. Colette embrasse son petit frère. Il est chaud. Il sent le lait et l'amande. Elle quitte la chambre, va à l'étable. Une brebis lève les yeux vers elle, veillant sur son agneau. Les mères savent qu'un jour ou l'autre, les mains de l'homme leur prennent leurs petits. Elles ne sont jamais tranquilles. C'est la main qui nourrit et qui retire. Elle plonge les doigts dans la crinière du bijou et le sent frissonner. Elle l'embrasse sur l'épaule. Colette traverse la cuisine. Robin ronfle, le nez dans son journal, tandis que la mère dort à l'étage. « Tant mieux, » pense-t-elle. Tous les soirs, c'est pareil. Elle en haut, lui en bas. À ce rythme, pas de risque qu'il l'engrosse. Elle pousse les dernières braises au fond de l'âtre et fait ses devoirs sur la table. Elle voudrait devenir institutrice. Mais pour ça, il faudrait continuer les études après la 7e, passer en 6e au collège avec Blaise et aller jusqu'au baccalauréat. Et non pas choisir la voie qui lui est toute tracée, celle du certificat d'études après la 7e. Cette voie qui fait qu'à 14 ans, on entre à l'usine ou on reste à la ferme. Mais ça paraît impossible. Jamais les parents ne le permettront. Blaise la sort de ses songes en balançant des petits cailloux sur les carreaux. Elle le retrouve en silence pour lui souhaiter une bonne nuit. Il lui tend Bel Ami de Maupassant. Il pique en douce des livres dans la bibliothèque de ses parents. De temps pour lire, Colette n'en dispose pas. À peine quelques minutes avant de s'endormir. Mais elle aime emporter les mots dans son sommeil de plomb. Elle cache le roman sous son pull-over. « Mon père dit que c'est réservé aux adultes. » Colette étouffe un rire dans ses mains. « Merci. » « À demain. Bonne nuit, ma Colette. » Colette dit souvent à Blaise qu'un jour, il sera un grand écrivain, comme Victor Hugo.